Il y a quelque chose d'intéressant, je crois, qui vit sur les rythmes que prennent ces processus de décision. Vous voyez, un débat où les institutions s'affrontent, je dirais, dans la lenteur, années 60, 70, 80, ils prennent tellement de temps à se répondre, etc., etc. Le débat est dans la lenteur, et puis tout d'un coup, il y a des accélérations, il y a des basculements. Bon, alors, ma remarque n'est vraiment pas construite hein, à ce niveau. Mais c'est juste une intuition dans la mesure où, comme je l'ai dit au début, j'ai dû le papier en me disant, peut-être à tort, que l'objet était le processus de décision ou de non-décision. Et j'ai fait, et dans ma tête, finalement, je l'ai comparé avec d'autres processus de décision voisins qu'on connaît tous, en télécom, université, etc., on est tous dedans depuis 20 ans. Donc, et à un moment donné, je me suis rendu compte en comparant ça, on s'aperçoit que dans ces institutions, les affrontements rhétoriques se crispent, se dramatisent, et puis tout d'un coup, il y a un basculement, et puis tout d'un coup, juste après, les rhétoriques s'éteignent. Et donc, il y a quelque chose, je ne sais pas trop dire de plus, vous voyez, mais bon, je suis sûr qu'il y aura une histoire comparée à écrire de ces transformations des institutions publiques françaises, et il y a peut-être quelque chose à je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis, c'est juste une intuition par la question de ces rythmes, la question de ces rythmes, voilà. Tout d'un coup, ça s'annule, tout d'un coup, ce qui paraissait dramatique ne l'est plus le lendemain quasiment. Vous voyez, là, il y a quelque chose. Alors, plus précisément, à ce niveau, c'est une question qui est plus d'ordre factuel, historique, sur les origines du débat que vous datez à la fin des années 60, avec la fameuse directive Debré qui est en fait fondamentale, c'est le début de la libéralisation, quelle était à l'époque la position syndicale sur la question ? Par rapport au discours du ministre Robert Gallet, c'est un peu un discours défensif-offensif, je dirais. Par rapport à ce discours, est-ce que, à l'époque, le discours du ministre était vécu par les syndicats comme une défense de l'institution, ou est-ce que c'était déjà vécu comme une attaque et une forme de privatisation du service public, comme le veut la rhétorique syndicale par la suite, vous voyez ? Comme je crois, la Banque postale a été vécue par la suite. Y a-t-il eu des sortes d'alliances, objectives au moins, entre certains discours syndicaux et certains discours institutionnels ? À certains moments, la position du Trésor peut se lire comme pas si éloignée d'une position classiquement syndicale, même si les motivations ne sont pas les mêmes, ou pas exclusivement les mêmes. Est-ce que là, il y a eu quelque chose, puisque là, l'acteur syndical, qui est quand même important dans le public, surtout, c'est encore plus à cette époque, il n'apparaît pas trop, mais qu'il y a eu des alliances, voilà, et des positions déliées. La troisième remarque sur ce texte, c'était, j'ai été particulièrement intéressé, comme je l'ai dit dès le début, par les rhétoriques utilisées pour justifier soit l'entrée de la Poste dans le monde du crédit libre, soit justifier le fait de le protéger de l'univers du crédit. Langage du modeste ministère des BTP, qui commence à défendre son administration, en militant pour l'adoption d'habitudes connotées publiques vers des usages connotés privés, versus langage du noble trésor, fin des fins du ministère de l'économie. Les ministres des PTT successifs défendent donc la Poste en essayant de lutter contre la concurrence de plus en plus vive des banques, qui, elles, dès la fin des années 60, sont libérées d'un certain nombre de contraintes réglementaires, tandis que le Trésor, je redis, le haut de la technostructure étatique, adopte une position inverse et se pose en défenseur des missions du service public. C'est du moins ce que la rhétorique met en avant, même si ses motivations et arguments sont plus complexes, plus mêlés, plus changeants. Pour le présent, si la Poste met à vendre du crédit, sans épargne préalable, distinguo important sur lequel je vais revenir, la Poste sortirait de sa mission de service public. Mais qu'est-ce que c'est que la mission de service public ? Une notion, au fil de votre texte, très générique, où on préserve les populations fragiles de l'exclusion bancaire, où on rappelle l'action pédagogique pour apprendre la gestion de l'argent aux gens qui n'en ont pas qui n'ont peut-être pas les ressources pour gérer l'argent, mais aussi collecte considérable de fonds pour l'État, puisque la Poste, c'était quand même avec les congés sociaux et les fonds d'épargne, etc., ça permettait à l'État de disposer de financement, et ça, le Trésor est extrêmement sensible à ça, mais aussi concurrence, pression de l'Association française des banques, qui fait en fait aussi pression sans doute sur le Trésor pour viser qu'il y a un concurrent en plus, logique de marché, classique. Et puis le Trésor qui dit la volonté de ne pas déstabiliser l'ensemble des acteurs financiers, donc c'est très très utilisé pour dire qu'en fait ils sont eux aussi soumis à la pression de l'Association française des banques. Donc tout ça, si vous voulez, cette optimisation est une figure rhétorique commune au discours institutionnel en général, mais dans le cas du Trésor, il me semble qu'il y a une étude spécifique, quoi. Car il s'agit pour ce discours de toujours donner l'impression de défendre l'intérêt général, duquel tout intérêt particulier est exclu. Mais surtout, si je répète un peu ça, c'est que j'ai été frappé par la diversité des arguments mobilisés par le Trésor pour éviter que le crédit ne soit proposé à la poste. De temps en temps, le service public peut être commercial, avoir une attitude commerciale, mais à d'autres moments, cela semble incompatible. Il y a des justifications techniques, doctrinaires, sociales, économiques. Certaines reposent sur des principes de rationalité économique. Quand ils disent la poste, en fait, perd pas vraiment de part de marché, mais en disant ça, là, ils se retrouvent, en fait, dans une registre de justification purement économique. Tous ces registres, encore une fois, de justification semblent se mêler, parfois se contredire. Selon les moments, un registre est mis en avant, à d'autres moments, c'est un autre. Ça, on le sent très bien. Mais, et c'est ma troisième question, je me détour pour arriver à ma troisième questionnement, c'est m'a paru très intéressant, et cette distinction entre crédit immobilier avec épargne préalable et crédit immobilier sans épargne préalable. Pourquoi le premier est-il accepté depuis longtemps, le temps d'épargne logement? Et semble-t-il, sans que cela ait jamais posé de problèmes doctrinaux au Trésor ou au syndicat? Comment, toujours pour rester au niveau des rhétoriques institutionnelles, comment est argumentée et justifiée la distinction radicale entre les différents types de crédit immobilier avec ou sans épargne préalable, mais aussi entre les crédits immobiliers et les crédits à la consommation? Question adjacente à celle-là, qui me fait simplement problème. Les questions de morale sont-elles présentes pour fonder ces distinguos? Je sais pas si ça m'intéresse. Fait-on une distinction morale entre le fait de s'endetter en ayant épargné au préalable et le fait d'emprunter et donc de consommer sans être soucié d'économiser dans un premier temps? Est-ce que ça s'est invoqué dans les autres? Alors, l'argument évoqué à propos de l'évaluation du prêteur, vous savez, la Poste n'a pas pour mission d'évaluer les gens, de les sélectionner, et surtout, il ne faut pas que la Poste se retrouve dans la situation d'attaquer en justice un mauvais payeur. Cet argument, il pourrait tout autant s'appliquer au plan d'épargne logement. Quelqu'un qui a économisé, qui fait un plan d'épargne logement et qui a fait un peu plus payer, eh bien, il est en situation de défaut de paiement. Donc cet argument, il pouvait être considéré dès le premier crédit consenti, vous voyez. Donc, est-ce que ça a été... Là, à ce moment-là, la Poste qui a bien vu avoir des cas, le plan d'épargne logement, les gens qui n'ont pas payé, et qu'est-ce qu'a fait la Poste à ce moment-là? Elle s'est retrouvée, j'imagine, déjà en situation... Vous voyez, il y a une contradiction dans les trucs, mais comment ça a été réglé, résolu? Mais surtout, pour aller peut-être plus loin, ce que j'ai dit là de manière un peu approximative, vous voyez, c'est de comprendre comment se fonde ce distinguo entre les différents crédits, et est-ce que ne vit pas là un fond idéologique? Enfin, je ne sais pas, mais je ne veux pas non plus l'induction, mais vous voyez comment, parce que cette coupure est radicale dans les rhétoriques institutionnelles. Consentir un crédit immobilier avec épargne préalable, sans épargne préalable, ils en font quelque chose de radical, alors c'est pas, oui, c'est pas si radical que ça. Voilà, donc ça c'était mon... Alors, passons maintenant au troisième papier, celui de Xavier Roux, qui propose donc une approche très différente, avec qui c'est très intéressant, donc je vais y revenir, sur le plan méthodologique, avec une enquête effectuée sur deux agences bancaires, localement dans le quartier socialement contracté, Saint-Denis et vos quartiers de Jossé-Parisien. Il grossit le microscope, lui, autre façon de considérer le crédit, je crois que ça vous soutient intéressant pour le cabinet. Il grossit le microscope sur 54 interactions, c'est vraiment un grossissement du microscope, sur 54 interactions conseillers clients potentiels. Xavier Roux parle de scène sociale secrète, pour définir un petit peu la nature de son terrain, c'est assez juste, dans le but de mieux comprendre la part qui revient au service, approche cognitive de l'argent, et la part qui revient à la logique du marché, où le crédit est introduit comme un don. Alors, pour avancer dans cette voie, ça crée des observations, est guidé par un paradigme, principalement interactionniste et goffmanien, une version assez arme, on va dire, hein, de cette option, tempérée quand même par le contraste sociologique des deux sites d'observation. Je pense effectivement que c'est grâce à l'interactionnisme plus. Mais vous allez quand même, c'est pas si fréquent, donc c'est intéressant de dire, assez loin dans la mise en œuvre de cette démarche interactionniste qui est souvent évoquée, mais qu'on a du mal à aller jusqu'au bout pour la mettre en œuvre. Et vous le faites tout à fait. Donc ces observations sont guidées par le concept de distribution des rôles, entre les deux protagonistes, distribution qui ne serait que partiellement déterminée par les rôles officiels de la banque et le contenu économique de la transaction. Dans ce cas, une place particulière est accordée au début de l'interaction qui semble déterminante dans l'obtention ou non du crédit. Une attention particulière est accordée à deux dimensions de l'interaction, la dimension commerciale, c'est-à-dire la capacité pour le client, le futur débiteur, à comparer entre eux les établissements bancaires et leur offre respective de crédit, à être finalement un investisseur plus un investisseur actif qu'un débiteur passif, et de l'autre côté, la dimension d'évaluation par le conseiller, c'est-à-dire sa capacité à évaluer la solvabilité au-delà, et c'est cet au-delà qui est le plus important, au-delà des chiffres de ses revenus, de ses simples chiffres de ses revenus, mais en essayant de projeter dans le futur la personne qu'il a en face de lui. C'est pas tout à fait rien. C'est pas tout à fait rien. Alors, à ce niveau, une remarque plus générale, sur les trois textes, le crédit, les méthodes, etc., etc. Ces trois approches nous montrent finalement que le crédit peut être observé sur des échelles diverses. Donc, vous savez peut-être, là, on en a évidemment une illustration. Individus, à la fois des individus qui sont des débiteurs atomisés, dans le cas du prêt obligé de Corédien, des acteurs institutionnels et leurs discours et productions écrites sur le sujet, et enfin, interaction dialogique entre un conseiller et un acheteur client de crédit potentiel. Donc, on a trois échelles, trois patrons de saisir cette pratique. On peut donc considérer les caractéristiques sociales du débiteur, on est en amont du crédit, on porte plus en amont les institutions qui encadrent juridiquement et politiquement les offres de crédit, et en amont encore, on est toujours en amont là, l'interaction au cours de laquelle la relation de crédit se noue ou ne se noue pas. Donc ça, je remarque, à la fois il y a une variété des trois approches, mais il y a aussi quelque chose de semblable dans le fait qu'ils sont toutes les trois en amont du crédit lui-même. Et tout ça, c'est très intéressant, mais bon, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire, de fait, ces trois démarches se situent toujours en amont de la pratique du crédit, car ne l'oublions pas, on l'oublie peut-être un peu, que le crédit, une fois obtenu, ou une fois refusé d'ailleurs, continue sa vie sociale. Le crédit, après, on le prend pour 15 ans, et on continue pendant 15 ans à avoir une relation à ce crédit, qui n'est pas la même la première année, la cinquième, en fonction du divorce, des machins, des événements, de la vie. Donc le crédit, il a une vie. Et souvent, peut-être, toujours pareil, un effet un peu dominant des économies, qui nous force à nous focaliser sur les volumes de crédit, accordés ou refusés, les caractéristiques sociales des emprunteurs, toutes choses en amont, vous voyez, qui peut-être nous font un petit peu oublier ça en aval, le jour d'après. Comme on dit, c'est pas le jour d'après la catastrophe, mais c'est le jour d'après l'obtention du crédit. Le crédit continue, il doit être observé, j'imagine. Et tout est juste comme ça une remarque générale, et il y a là c'est une remarque un peu exploratoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questionnements et d'enquêtes à faire en aval du crédit. Le jour d'après, les jours d'après, les années, les mois d'après, les années d'après. Le crédit ne finit pas, et même quand il est clos, il continue à vivre dans le roman familial, dans multiples choses. Donc les trois démarches sont à trois échelles, mais elles sont toutes les trois en amont. Il faut l'avoir en tête. Alors pour revenir au texte de Xavier Roux, on m'a juste aidé à faire une remarque plus générale sur les trois. Pour revenir au texte de Xavier Roux, on retrouve là, et c'est très bien illustré par le choix du terrain, l'interaction initiale, et qu'est-ce qu'on retrouve là? La contradiction du crédit en tant que pratique sociale marchande, dans la mesure où le vendeur ne cherche pas à tout prix à vendre sa marchandise pour limiter ses propres risques ou se conformer à des règles externes ou internes qui sont les limites de l'endettement. Alors là, juste une toute petite question qu'on aura pu vous poser tout à l'heure, mais bon, vous ne parlez pas trop dans la description de l'interaction que vous écrivez, des 54, vous ne parlez pas trop des règles internes et externes dans l'évaluation. Alors, c'est pas l'État, c'est pas la Poste, etc., c'est pas l'État, mais c'est comme une institution. Et donc, vous n'en parlez pas trop. Les réglementations auxquelles les banques doivent se soumettre, les dossiers ne doivent-ils pas passer, là c'est purement un petit truc informatif, ne doivent-ils pas passer à la Banque de France avant d'être acceptés? Non. C'est juste, on contrôle juste, et qu'il y a, l'État, ce que je veux dire, c'est,